J'aime le livre, je dirais pas que j'ai un livre qui a changé ma vie. Si, j'en ai un qui a changé ma vie. Le héros aux mille visages de Joseph Campbell. Un excellent bouquin que je conseille à tout le monde, qui peut être un peu fastidieux à lire parce qu'il est très dense, très riche, mais qui donne une ouverture d'esprit gigantesque.
Ça t'a pas fait penser à l'aventure d'entrepreneur?
Forcément, le mythe du héros. Le parcours du héros, ça fait partie du parcours d'entrepreneur. Après, attention à ça aussi, parce que le mythe du héros, on est sur un héros solitaire. L'entrepreneur ne peut pas être solitaire.
Il ne peut pas bien avancer. Un film qui a changé ta vie. S'il y a un film qui te... Mm-hmm.
Fight Club. Fight Club, je trouve que Fight Club est un film qui permet de casser les codes et d'être surpris et d'être plongé dans un univers d'inconfort, et on en ressort, on se pose mille questions, à la fois sur effectivement le début où le héros se dit je suis dans une routine, etc. Donc ça fait penser à tout le monde et ça remet en question, voilà, moi aussi je suis dans une routine, etc. Donc tout le monde s'identifie à ce personnage. Et après, à quel point ça peut être violent d'être trop dans son petit monde et qu'il faut aussi s'ouvrir l'esprit. Donc c'est en ça où le côté être allé jusqu'à créer un personnage, je suis désolée si je spoil les gens qui n'ont pas vu Fight Club, créer un personnage parce qu'il était trop dans son monde. Je trouve ça dingue et du coup, ça m'a permis de réfléchir à énormément de choses. Ça m'a beaucoup parlé, ce film m'a beaucoup parlé.
Quelle est ta définition du succès? Alors, je dis ta définition parce que pour beaucoup de personnes aujourd'hui, le succès, ça ne va pas être pareil pour tout le monde.
Non.
C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit oui, mais ça ira mieux quand ce sera un succès. Oui, mais c'est quoi?
Ouais. Ma définition du succès, ça serait à chacun de trouver son équilibre. Le succès, il peut être... il est là... pour tout le monde, et le succès c'est pas forcément vendre 1 million de produits et être sur toutes les couvertures de magazines. Le succès c'est plus trouver son équilibre, comment moi je peux être heureux, comment moi je peux me challenger au quotidien et qu'est-ce que je veux faire pour être heureux dans ma vie. Donc est-ce que être heureux dans ma vie c'est être mère au foyer, avoir des enfants? Est-ce que c'est avoir une carrière? Est-ce que c'est voyager? Et donc, du coup, pour moi, le succès, c'est trouver son équilibre et savoir ce qu'on veut.
Et tu l'as trouvé, ton
équilibre? Je ne le trouverai jamais, mon équilibre. Mais justement, c'est ça, mon équilibre. Mon équilibre, c'est de ne jamais trouver mon équilibre.
Et est-ce que, justement, cette approche succès, elle a changé en 4 ans ou c'est la même depuis le début?
Je ne l'avais pas matérialisé, mis des mots concrets dessus. J'ai mis des mots comme ça dessus depuis peu. Mais je pense que j'ai toujours pensé ça, ouais. J'ai toujours pensé que c'était une question d'équilibre.
Si tu pouvais choisir un message particulier qui apparaîtrait sur tous les billboards de Paris ou même de France, à la place des publicités, qu'est-ce que tu voudrais mettre comme message? Pour interloquer les gens après Fight Club et Joseph Campbell.
J'ai pas d'idée de exactement quel, parce qu'il faut que ça soit punchy, il faut que ça soit, voilà, comme tu dis, interloqué. Ça serait quelque chose pour dire aux gens de sortir de leur zone de confort. Je pense que c'est la meilleure manière de grandir et d'apprendre. Ou alors si, ça y est, j'ai trouvé ce que je voudrais mettre. Je pense que je mettrais « I'm still learning ». C'est-à-dire continuer à apprendre. C'est vraiment faire prendre conscience aux gens qui peuvent, même encore adultes, à apprendre, quoi. Apprendre, c'est la clé de la... On parle beaucoup de choses clés dans la vie, mais voilà, c'est aussi la clé, quoi. Toujours apprendre, C'est génial, ça permet de grandir, ça permet de jamais être cloisonné dans une pensée. Et ça aussi, c'est très important.
Pour toi, alors, qu'est-ce qu'un véritable entrepreneur dans le sens... c'est quoi les qualités premières pour toute personne qui se met en doute en disant « Ah, mais entrepreneur, il faut avoir fait ça, il faut avoir fait une école. » Qu'est-ce qui fait un véritable entrepreneur hors diplôme, même pas forcément diplôme, parce que bon, il y en a beaucoup, ils n'ont pas fait forcément d'école.
Exactement. Très sincèrement, le diplôme, on s'en fout. tout le monde peut arriver à faire des choses. Après, effectivement, il y en a d'autres qui ont des niveaux de vie et qui sont des positions plus confortables que d'autres. On est totalement d'accord avec ça. Pour moi, un beau entrepreneur, c'est un entrepreneur passionné. La passion, si t'es pas passionné, non, ça marchera pas. Parce que c'est un parcours qui est fait de beaucoup d'embûches. Et la passion te permet de te surpasser, de partager aux autres ce que t'as envie de leur partager. Et dans les moments difficiles, de continuer à garder ça en tête, quoi. C'est ça que je veux faire. Je vais y arriver. Et moi, j'ai jamais douté en fait que j'allais pas y arriver. En fait, c'est-à-dire que ça ne fait pas partie de l'équation. Quoi qu'il arrive, je vais y arriver. Je sais pas où je serai dans 5 ans, 2 ans, dans 10 ans, je m'en fous. Mais je sais que je vais arriver à atteindre mes objectifs parce que c'est comme ça. Voilà, ça peut pas être autrement.
La passion, donc c'est un peu ce qui t'a aidé et aussi conduit à être là aujourd'hui, dans le sens où, comme tu disais, il n'y a pas d'autre alternative, parce qu'en fait, la passion, c'est pour ça, quand tu dis passion, c'est primordial, parce qu'il y en a beaucoup, pas beaucoup, mais il y en a aussi, c'est, voilà, parce que pour faire de l'argent, pour... Alors oui, mais on se lève tous les matins sans justement cette certitude. Donc la passion t'a donné cette certitude. Est-ce que tu crois que tu auras une vie avec d'autres passions ou... Parce que vu que tu es très créative, t'as pas peur de te retrouver justement à un moment donné bloquée et avoir envie justement d'aller sur un autre navire pour d'autres horizons
ça aussi, c'est une très très bonne question. Forcément, je vais aller voir d'autres horizons. Ça sera forcément en cohérence avec mon parcours avec l'Uni. Je pense que ce parcours avec l'Uni va durer longtemps, mais que l'évolution de l'Uni va être étonnante. Qu'on va nous retrouver à des endroits où on ne s'y attend pas. Que quand on voit l'Uni dans un premier temps, on se dit qu'on veut être fabricant de jouets. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on est confronté à des problématiques qui sont des problématiques qui nous concernent, nous, en tant que créateurs de produits, mais qui concernent aussi énormément de monde. Et je pense notamment à ce côté industrialisation, ce côté... on a été un peu déçus quand on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas produire en France, etc. Et ça a réveillé en moi un côté, je suis citoyenne de France, j'ai aussi envie de faire quelque chose pour mon pays. Et donc du coup, évoluer dans ce sens-là, je ne sais pas où ça peut me mener, mais avoir aussi des impacts plus grands que juste, et je ne minimise pas la commercialisation d'un produit, hein, je dis juste avec, on passe à une échelle plus grande, nationale. Et donc du coup, c'est grâce à ce parcours avec l'Uni qui m'a permis d'avoir cette vision-là, que mes associés partagent d'ailleurs. Donc du coup, je ne sais pas quel va être mon parcours d'entrepreneur. Je sais qu'effectivement, je ne vais pas tourner en rond. Donc du coup, ça va évoluer et que le métier que je fais aujourd'hui, ce ne sera pas le métier que je ferai demain.
Voilà. Parce que tu sais que tu as des objectifs qui font que ça t'amènera...
Exactement. Et les objectifs évoluent au jour le jour.
Voilà.
Et soit se peaufinent, soit se floutent. Mais en tout cas, ils évoluent tout le temps. Tout le temps.
Quel impact tu souhaiterais que ton travail, ton projet ait sur le monde qui t'entoure, la vie des gens, comment dire, l'impact à long terme ?
Si je peux motiver des gens à devenir entrepreneur ou à créer des projets, à se lancer, à aussi ouvrir leur esprit au monde, comprendre que il y a plein de choses qui se passent autour d'eux et ne pas être seulement dans leur situation personnelle, qu'on est dans une situation aussi globale, qu'il faut penser systémique, qu'il faut penser aussi au tout et pas juste à sa situation, qu'on fait partie d'un tout. Et donc du coup, soit inspirer, soit faire prendre conscience, je serais très heureuse et même vraiment très heureuse d'en arriver là. Si je pouvais parler concrètement, j'aimerais aussi beaucoup accompagner des entrepreneurs qui veulent se lancer, des étudiants sortis d'école ou autres, pour pouvoir les aider, les conseiller et les accompagner. Ouais.
Et par rapport à l'UNI, sur le long terme, t'aimerais que ça apporte quoi aux enfants de plus qu'un jour retenir justement ?
Moi, j'aimerais bien que l'UNI soit un produit, et d'ailleurs c'est une vraie volonté qu'on a, un produit qui soit intemporel, c'est-à-dire qui dure vraiment dans le temps, qu'on ne soit pas sur un produit de mode ou un produit one-shot qui dure 3 ans et puis après on n'entend plus parler. Ça peut être un produit qui dure et qui évolue et avec l'enfant, qui soit sur... qui lui apprenne plein de choses. Donc on est sur le côté imaginaire avec les histoires, qui est quelque chose de très personnel parce que l'enfant peut laisser les approprier totalement. Mais si on peut être aussi dans du pédagogique, mais du pédagogique éducatif intelligent, parce que nous on prône un apprentissage où l'enfant est actif et pas passif, où l'enfant choisit, où l'enfant vraiment se pose des questions et pas juste exécute. Si on peut aller sur ce chemin là, ça aussi ça serait génial.
Et qu'est-ce que ça a changé, alors la conception de l'UNI mais aussi la recherche que tu as dû faire par rapport à ce monde digital, la créativité, etc. Toi, dans ta vie personnelle, est-ce que ça a changé quelque chose dans ta relation digitale ? Est-ce que ça t'a influencé ?
Mon parcours avec l'UNI ?
Oui, et quand tu as... Parce que j'imagine que tu as vu plus que personne d'autre, voilà, que... Parce que, enfin, si tu as fait l'UNI, c'est vraiment pour trouver une solution par rapport à ce souci-là. Donc, toi, dans ta vie personnelle, est-ce que tu as changé ? Est-ce que tu pouvais pas... À part si tu as une boîte pour toi, personne, tu utilises...
C'est grâce à mon parcours à Strat que j'ai eu un nouveau regard sur le digital. J'étais très enfermée sur le côté les écrans, les interfaces. J'aimais pas trop, ça me parlait pas trop. Et à la fois, je voyais énormément de choses émerger qui étaient au niveau intelligence artificielle, au niveau usage, qui étaient ultra intéressantes. Mais j'avais ce côté écran qui... me rebuter un petit peu. Et puis en me spécialisant dans la branche innovation interactivité de Strat, dans laquelle je suis allée, alors qu'à la base je voulais faire produit, mais je sentais un truc en allant dans cette branche-là, j'ai découvert que les interfaces tangibles, c'était ce qui me parlait le plus. Donc quand je dis interfaces tangibles, l'UNI en est une, mais on peut imaginer, je citerai le travail des éditions volumiques d'Étienne Mineur, qui est absolument, c'est absolument incroyable ce qu'il fait. Ça permet de mêler tangible et numérique. Et là, j'ai découvert un nouveau monde, un nouveau regard sur le numérique en me disant « Ok, on peut faire autre chose. On peut faire plein d'autres choses grâce au numérique. » Et donc, du coup, aujourd'hui, je prône plus ce genre d'utilisation au lieu d'être contre mon temps en disant « Bah non, j'ai pas envie qu'il y ait d'écran, etc. » J'ai pu être à un moment donné, mais plus du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus, ok, comment bien réfléchir pour que si un usage, on est juste un écran et c'est le meilleur usage, allons sur cet usage-là. Si on peut apporter en plus quelque chose avec quelque chose de tangible, allons-y. Si c'est sur un objet totalement physique, allons-y aussi. C'est à chaque fois, et c'est le métier du designer, s'adapter en fonction de quelle est la meilleure réponse pour l'utilisateur.
Et est-ce que justement... Toi, personnellement, ça t'a ralenti, par exemple, ta consommation du digital ? Parce qu'il y en a, moi, je sais qu'en ce moment, en particulier depuis l'année dernière, parce qu'il y a des applications comme Freedom qui décrète ou Self-Control, dont le but, en fait, est de faire attention à cette partie consommatrice du multimédia, du digital, qui a tendance à être beaucoup plus supérieure à notre partie productrice, créatrice, parce que les réseaux sociaux, mais pas seulement, il y a aussi... le travail qui nous demande d'être tout le temps sur l'écran ou les emails, etc. Toi, tu as créé une certaine routine qui qui te permettait justement cette balance, ou tu considères que tu utilises le digital comme tout le monde à cause notamment de ton travail?
Mon métier, ouais. Honnêtement, oui. Honnêtement, moi je fais pas de travail particulier pour me couper des écrans ou des réseaux sociaux. Je suis totalement victime de ma génération. Je suis totalement victime de ma génération. Effectivement, je passe énormément de temps devant les écrans, pas que pour mon travail, mais aussi pour me détendre. Après, j'ai réussi à trouver des moments où je m'évade. J'ai une platine chez moi. Et la musique est quelque chose de très très important pour moi pour en faire encore travailler mon imagination. C'est les moments où je suis plus créative, on parle de pure création. Donc du coup, les moments où je réussis à m'évader, c'est je suis chez moi, je mets ma platine et je me mets à soit à rêver, soit à penser à plein de choses et à imaginer plein de choses. Et ça me permet de me couper effectivement de cette routine écran-travail ou écran film ou série pour m'évader. Voilà. Effectivement, ça a été ma réponse à moi pour déconnecter. Et comme tu dis, ça s'est fait de manière totalement naturelle, c'est-à-dire que je ne me suis pas forcée à me dire « Ok, Maëlle, t'es trop devant des écrans, donc il faut te couper. » Je pense que c'est d'autant plus important, effectivement, quand on est enfant. Mais encore une fois, c'est à faire avec... pas dans l'extrême. Donc on parle toujours encore d'équilibre, mais vraiment, c'est... si c'est faire une digital détox pour faire une digital détox, mais que à la fin... Bah, les enfants, ok, j'ai fait une semaine sans écran, mais j'y retourne direct. Non, ça n'aura pas marché. C'est aussi aux parents d'éduquer leurs enfants, à leur apprendre qu'il y a un temps pour chaque chose et que voilà, il y a un temps pour regarder votre dessin animé sur la tablette, mais il y a aussi un temps pour jouer dans votre chambre. Il y a un temps pour vous ennuyer. L'ennui est hyper important quand on est enfant parce que ça permet d'être créatif, de dire ok, bah, qu'est-ce que je peux inventer pour ne plus m'ennuyer, et ça permet à des enfants d'imaginer que leur bateau est un, leur lit est un bateau, par contre, pardon. Voilà. Donc il y a aussi un travail des parents à pas simplement couper les enfants des écrans pour les couper des écrans, c'est aussi leur expliquer.
Ça fait partie de
la chose. Et puis en tant qu'adulte, à chacun de se remettre en question en se posant les bonnes questions. Est-ce que passer autant de temps devant des écrans, c'est bon pour moi? Est-ce que voilà, moi je sais qu'aujourd'hui je me pose pas la question parce que ça fait partie de mon quotidien et ça fonctionne très bien comme ça. Peut-être qu'au bout d'un moment j'aurais plus envie de me déconnecter un petit peu pour une certaine raison, mais voilà, encore une fois, chacun trouver
c'est
la bonne réponse.
En fait.
Exactement.
Exactement. Que tu as trouvé dans ta vie, ça te convient et tu sens encore. C'est comme le fast-food en fait. Hein. Quand tu es trop à regarder des vidéos de chat, tu te dis oula, là, je me sens.
Mais c'est ça. C'est ça.
D'après toi, quel est le plus gros préjugé sur l'entrepreneuriat qui est d'ailleurs le plus faux par rapport à ton expérience? Enfin, le plus faux. Les gros préjugés, bon, celui qui est loin de la réalité.
Bonne question, je réfléchis. Préjugés sur l'entrepreneuriat. Je sais pas si j'ai un préjugé à casser, mais je sais qu'il y a une image extrêmement cool qui est donnée à l'univers startup. Tout le côté Silicon Valley, on fait des choses incroyables, on rencontre des gens incroyables. Il y a un côté un peu too much. Dans l'image qu'on peut avoir des startups et de l'entrepreneuriat, qui a un certain côté vrai, mais ça sert à rien d'en faire des caisses, quoi. C'est un univers hyper intéressant parce que c'est des montagnes russes, parce que on est confronté à rencontrer des gens différents tout le temps en fait, et on n'est pas voilà à tous les jours se rendre à son bureau et à tout le tour voir les mêmes collègues, ce qui n'est pas un jugement à porter, c'est juste voilà, ça fait partie de l'univers de l'entrepreneur, de son quotidien à lui, mais le truc qui me dérange un peu, c'est dans tout l'enrobage en fait qu'il y a autour de l'univers startup. Ça serait bien d'en parler de manière ancrée dans la réalité, parce que Oui, c'est des levées de fonds. Alors, oui, là, ça a été très difficile parce que... Et puis, on va aller dans le cliché. Et puis, tout le temps dans le trop. Non, disons les choses telles qu'elles sont. Aussi, chaque parcours de start-up a des points communs. Mais chacun se différencie à sa manière. Donc, parlons-en comme ça, simplement, au lieu de l'enrober, forcément.
Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup parce que quand tu vas au soir, quand tu rencontres des gens, les gens te posent la question, les grands clichés, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et quand entrepreneur, on va me dire entrepreneur, mais toi, si tu pouvais te créer ton propre titre, designer ton propre titre, qu'est-ce que tu ferais ? Si tu mettrais sur ta carte de visite et personne ne connaît ce titre que toi.
Apprenti de la vie. Ouais, ou non, sincèrement. Parce que je sais pas si je serai entrepreneur toute ma vie, je sais pas comment mon parcours va évoluer, mais comme on en parlait tout à l'heure, j'ai envie de continuer à apprendre et ça me fait grandir, donc forcément ça m'apprend la vie. Donc apprenti de la vie, je trouve ça plutôt pas mal.
C'est intéressant parce que justement la partie de l'entrepreneur qui plaît le plus, c'est vraiment la partie découverte. Là, du coup, Joseph Campbell, qui en fait ne sera pas approchée de la même manière par tous les entrepreneurs. En fait, chaque entrepreneur a
sa propre manière d'avancer, de voir l'entrepreneuriat, de voir ce que ça lui apporte. Et effectivement, pour moi, c'est d'apprendre parce que ça permet aussi de jamais savoir qui on est, ce qui peut être inconfortable et à la fois extrêmement confortable. Et c'est ma réponse. Mais elle est différente pour chacun.
Quelle expérience marquante de ces dernières années t'a marqué et beaucoup appris ? Plus à part la Chine. La Chine, c'était une difficulté.
Marqué, appris.
Mais si c'était à refaire, est-ce que tu le referais ça aussi ?
Bon, bah alors ça, déjà, je peux te dire déjà oui, mille fois. En fait, à part mon parcours global d'entrepreneur, j'aurais pas de choses précises à apporter parce que chaque expérience ont été des faits et chaque fait vaut le coup d'être raconté et du coup en choisir un, c'est un peu compliqué. Je pense que la chose la plus marquante pour moi, ça a été de me lancer. D'accord. Ça a été de me dire ça y est, on se lance dans l'aventure. Et les moments marquants aussi, ça a été de réaliser. C'est aussi important de se poser, de réaliser le parcours qu'on a accompli. Je sais qu'avec mes trois associés, on a trop tendance, ce qui est aussi très bien, mais trop tendance à dire « Ok, c'est quoi la next step ? On peut encore faire mieux, on va faire mieux et allons-y. » plutôt que de se poser et je me souviens je pense que c'est le moment le plus con que je peux te raconter, mais je me souviens, il y a je pense 3 mois, je me baladais dans la rue, j'étais en train de marcher, j'avais ma musique dans les oreilles et puis j'ai eu une prise de conscience en me disant mais t'as créé un produit qui aujourd'hui est en magasin et dans les rayons quoi, tu viens d'en vendre 20 000 pièces et là dans ma tête j'étais là wow ok voilà. Ça fait partie de ce que tu as fait. C'est cool. Je pense que c'est ça, un des moments les plus marquants.
Est-ce que justement, tu dirais que tu as été satisfaite de chaque succès, étape par étape ? Parce que cette réalisation, c'était il y a 3 mois. Et pourtant, il y a eu 4 ans qui se sont passés avec plein de mini-succès. Tu dirais que tu n'en as pas forcément réalisé et que tu réalises seulement maintenant l'ampleur des choses, en fait.
L'ampleur, ouais, je pense, l'ampleur. Et il y a quelque chose que je devrais plus faire aujourd'hui, qui est peut-être... je devrais un peu me faire violence, c'est qu'au début, quand on s'est lancé, chaque chose, j'étais comme un enfant. Mais je pense que je le suis encore, c'est juste que les moments sont peut-être moins propices. Mais je me souviens, à chaque fois que j'apprenais une nouvelle ou qu'on faisait un truc, je disais... À exploser partout, ah c'est trop bien déjà. Et avoir l'énorme smile voilà. Et aujourd'hui je pense que les moments comme ça ils arrivent moins et je devrais je suis un peu nostalgique de ce moment là et en même temps je suis en train de penser qu'il y a 2 jours j'ai appris une bonne nouvelle et que j'ai fait la même chose donc bon finalement
ça, c'est vachement bien je trouve trouve justement les, qu'un petit truc juste ça donne la poche, c'est juste ouais. génial pour la suite quoi.
Ouais.
C'est un bon tremplin.
Moi je m'identifie à énormément de youtubeurs pas connus du tout, enfin peu connus, et je suis pas sûre que ça parle aux personnes qui peuvent
mais c'est parler. Parce que c'est parce que elle parle de choses qui te touchent ou c'est les choses dans lesquelles tu te retrouves et que tu retrouves pas forcément en
tant que donc moi je suis pro univers des créateurs de vidéos indépendants. Je regarde énormément ça, donc du coup forcément YouTube. Et je me, comme dans tout, je trouve mon équilibre en faisant ma recette, à aller chercher à droite à gauche quelque chose qui me plaît dans cette personne, quelque chose qui me plaît dans cette personne. Là, je trouve qu'elle dit les choses de manière intelligente, elle dit les choses de manière à ce que je les comprenne. Je trouve que c'est hyper important d'aller chercher vraiment ce qui nous parle. Et du coup, c'est comme ça que je fais, que j'apprends aussi sur d'autres choses. Parce qu'il y a le parcours d'entrepreneur, mais il y a aussi d'autres choses. Politique, histoire, culturelle, enfin plein de choses. Peut-être si j'en citais un, c'est Raphaël Descraques. Si, je pense que je vais citer deux. Raphaël Descraques et Vincent Tirel. Pourquoi ? Parce que eux, ils ont un univers. L'un a un univers totalement poétique qui me permet de me rappeler aussi mes premiers amours. Et mes premiers amours ont été aussi l'univers poétique de l'objet, à me porter forcément de la poésie à un projet, c'est hyper important aussi. Et puis l'autre est totalement fou et lui il est dans l'humour totalement comment dire absurde, voilà, l'humour absurde. Il est dans l'humour absurde et ça me permet aussi de me sortir du réel et de voir des choses absurdes. Ça permet vraiment de déconnecter, de se dire voilà, juste what the fuck et puis point barre quoi. Pas besoin d'aller chercher. Ouais. Mais de manière aussi à se dire bah, le what the fuck, ça apporte aussi des bonnes choses quoi. C'est pas.
Donc voilà. Ça apporte des clics en fait. Enfin,
aussi, exactement. En fait, c'est ça me permet aussi de dire ah ok, enfin, c'est bête, mais ça peut faire aussi résonner des choses. Pas que tout est raccroché voilà, à mon univers professionnel et en même temps complètement. Il y a une barrière très très fine entre le personnel et le professionnel. Et en fait, moi, je le mets tout dans un grand panier parce que mon parcours d'entrepreneur, bah, forcément, c'est ma personne dedans. Et forcément, c'est donc du coup ce que j'aime, ma personnalité, ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Et du coup, bah, s'inspirer aussi de choses qui n'ont pas de lien premier, pour moi, c'est essentiel aussi. Et c'est pas forcément aller lire des livres sur... les 10 choses à ne pas faire pour en tant qu'entrepreneur ou les succès machin ou les échecs, enfin voilà, c'est bien parce qu'il y a des très très bons bouquins là-dessus, mais c'est bien aussi de aller voir aussi un peu ce qui n'est pas directement lié à l'univers entrepreneurial.
Bah, la créativité ça sort dans ces moments-là en fait, c'est quand tu vas d'un extrême à un extrême et que tu fais la connexion entre des choses qui n'ont jamais été rattachées ensemble.
Tout à fait.
Elle est unie comme ça là-dessus.
Voilà, non mais tout à fait.
C'est
nous, et ouais, complètement.
Est-ce que c'est pour ça que beaucoup de personnes disent justement hein, que ça c'est pas être productif machin, mais justement ces moments d'évasion qu'on appelle de procrastination ou je ne sais quoi, c'est ce qui va faire le déclic quand on est sur la douche, je vais dire mais je viens de voir un truc et pourquoi je ferais pas ça, et c'est aussi bête.
Ouais. Encore une fois, suivre aussi ses intuitions, c'est pas mal. Et du coup, aller vers des trucs qui peuvent déclencher des intuitions, c'est aussi bien. Ça permet de prendre du recul, ça permet d'avoir un regard extérieur, un regard plus neuf, qui est aussi hyper important pour que son projet évolue.
Une dernière question, puis après je m'arrête. Quelle est la définition d'une journée productive ? Ou à quoi ressemble pour toi une journée productive ? Avec ta propre définition de la productivité, parce que je considère que c'est comme le succès, chacun a son approche de la productivité.
Et ben sincèrement, je n'ai pas de réponse à ça.
D'accord. C'est jamais la même chose et que
j'ai pas encore trouvé mon équilibre d'arriver à organiser mon temps avec toutes les tâches qu'on a à faire aujourd'hui, donc j'ai pas encore trouvé d'équilibre sur cette partie là et donc du coup j'ai pas de réponse à apporter.
D'accord.
J'ai pas de réponse à apporter, mais je pense que ça viendra.
Et si tu avais quelque chose que tu voulais dire justement donc nos auditeurs qui nous écoutent beaucoup pour trouver des sources d'inspiration et des exemples justement à suivre quand ils cherchent, qui se posent des questions par rapport à l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire pour la suite?
Moi j'aurais envie de leur dire ce que j'ai déjà dit dans l'interview, mais ça serait de parler de leur projet à plein de monde et à des gens à qui vous sortez à l'aise, à des gens avec qui vous avez des challenges intellectuels. N'écoutez pas forcément tout le monde, mais écoutez-vous, écoutez les personnes dont l'opinion est importante et rencontrez de nouvelles personnes. Et puis encore une fois, foncez, lancez-vous, n'ayez pas peur. Voilà.
On ne peut pas s'enfermer dans son...
Non, surtout pas, surtout pas.
Très bonjour. Ah, merci beaucoup, Maëlle.
Merci à toi.
Merci à Maëlle pour le temps consacré à l'occasion de cette interview. Vous pouvez retrouver Solibox et nos podcasts sur le site solibox.com. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter qui vous permet d'accéder aux dernières nouveautés et nouveaux produits disponible sur la plateforme. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast et très belle journée, soirée à tous. Ciao. Thank you.